Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci de suivre, chers auditeurs de la Radio de la Paix, cet espace. On parle d'économie encore une fois avec notre consultant Faustin Onozon. Et le sujet du jour, c'est les taux de change des monnaies. Comment ils fonctionnent, ces taux d'échange? Pour avoir la réponse, restez des nôtres jusqu'à la fin de cette émission et qui, comme vous le savez, s'articule en trois temps, le lexique économique, regard sur la gestion économique du pays et les tendances de la bourse, qui sont les trois rubriques de cette émission. Bienvenue à tous. Et démarrons avec le lexique économique.
Le lexique économique.
La monnaie.
La monnaie, c'est un moyen d'échange, un moyen de paiement et une valeur fiable aux yeux de tous. La monnaie est également une unité de compte permettant d'établir le prix des biens et des services et elle constitue aussi une réserve de valeur. Il existe trois formes de monnaie, il faut le savoir. La monnaie métallique, donc les pièces de monnaie, la monnaie papier, les billets et la monnaie scripturale. C'est l'argent enregistré dans les comptes bancaires sous forme d'écriture. Cet argent peut à tout moment est transformé en monnaie fiduciaire ou monnaie liquide, hein, si vous voulez.
Le taux de change d'une monnaie.
Le taux d'échange d'une monnaie, c'est le coût de cette devise par rapport à une autre. On parle aussi de la parité d'une monnaie.
La dépréciation d'une monnaie.
La dépréciation d'une monnaie représente aussi la baisse de la valeur d'une devise par rapport à une autre. Elle fait plus particulièrement référence donc aux devises ayant un taux de change flottant. Il s'agit d'un système selon lequel la valeur d'une devise est définie par le marché du Forex. Le Forex est le marché sur lequel les devises dites convertibles sont échangées l'une contre l'autre à des taux de change qui varient en permanence.
Regard sur la gestion économique nationale.
Vous connaissez cette rubrique, toujours avec Faustin Onozon, qui se prête à nos questions. Il est encore avec nous aujourd'hui pour nous intéresser à un sujet économique. Le sujet économique aujourd'hui, c'est de comprendre un peu ce mécanisme de fixation des taux d'échange des monnaies. Nous sommes avec cet économiste qui est notre invité encore aujourd'hui. Monsieur Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi, c'est de nous intéresser au taux d'échange des monnaies. Déjà, avant de parler des taux d'échange, c'est quoi d'abord une monnaie ?
La monnaie, c'est un moyen qui vous permet d'effectuer des transactions financières au sein d'un pays ou alors entre un pays et l'étranger.
Alors, chaque pays, en principe, ou un groupe de pays ont leur monnaie. Et des fois, on utilise ces monnaies dans d'autres espaces, dans d'autres pays. C'est ce qui amène à parler du taux d'échange parce qu'on arrive dans le pays X. Voilà, on est obligé de convertir cela. C'est un peu cela qu'on doit comprendre par le taux d'échange.
Oui, je crois que vous avez déjà donné une bonne partie de cette définition. Le taux d'échange, en fait, c'est l'expression d'une monnaie en termes d'une autre. On dirait par exemple que 1 euro égale 655,957 francs CFA. Et on a exprimé l'euro en termes de CFA ou le CFA en termes d'euro. Et c'est ça le taux de change. On pourrait dire d'une manière un peu plus académique que c'est un prix. C'est le prix d'une devise par rapport à une autre devise. Voilà ce que c'est que le taux de change.
Pourquoi on peut estimer que le franc CFA coûte 800 francs, c'est un exemple que je donne, par rapport à une autre monnaie? Pourquoi le franc CFA coûte par exemple... Ainsi dit, la monnaie ghanéenne, pourquoi le franc CFA coûterait un dollar libérien? C'est sur quelle base on s'appuie pour y déterminer la valeur ou le taux d'échange donc d'une monnaie?
Voilà, je crois qu'on va expliquer ça d'une manière un peu plus claire. On n'impose pas à un pays un taux de change quelconque. Il appartient à un pays souverain lui-même de créer son taux de change. Vous pouvez par exemple dire que 1 franc CFA égale 1 dollar. Maintenant, à vous de supporter les conséquences. Mm-hmm. Ça veut dire que 100 000 francs CFA, ça fera 100 000 dollars. Et vous savez qu'aujourd'hui, le dollar, ça fait à peu près 600 francs CFA, sinon un peu plus. Donc, pour quelqu'un qui était payé à 100 000 francs et que vous donnez une nouvelle parité à votre monnaie, pour dire que 1 dollar égale 1 franc CFA, ben 100 000 francs CFA, ça fera, et ça fera 100 000 dollars, multiplié par 600 francs CFA, ça fera 600 000 francs CFA. Ça veut dire que quelqu'un qui est payé à 100 000 francs, dorénavant, quand vous avez une nouvelle parité, les 100 000 francs deviendront 600 000 francs CFA. Alors, est-ce que vous serez à mesure de payer cette personne? Voilà. Donc, on ne vous impose rien. C'est vous-même qui créez votre parité. C'est vous-même qui créez votre taux de change. C'est vous-même qui exprimez votre monnaie en termes d'une autre.
Oui, c'est vrai qu'on a la souveraineté, en tout cas en termes de décision. Mais ça s'appuie sur quoi pour dire que, bon, par exemple, moi, ma monnaie équivaut, par exemple, à tel niveau par rapport à une monnaie étrangère?
Je crois qu'il faut être réaliste. C'est vrai que c'est le gouvernement qui fixe cette parité, mais il y a des spécialistes au niveau des banques centrales qui travaillent sur la gestion de cette monnaie. Et c'est d'une manière optimale qu'on fixe généralement le taux de cette monnaie. C'est le niveau que vous pouvez payer, le niveau qui vous permet de réaliser des transactions d'abord à l'intérieur de votre pays et puis en dehors de votre pays. N'oubliez pas aussi que lorsque vous fixez le cours de votre monnaie, il va sans dire que vous allez réaliser certainement des devises. Et l'opérateur économique qui viendra détenir votre monnaie doit aller à la banque centrale pour détenir des devises lorsqu'il veut faire des opérations d'importation. Alors, plus le cours est élevé, mais plus vous devez avoir beaucoup plus de devises. Et si vous n'en avez pas la capacité, mais il va sans dire que vous allez vers une déroute. C'est pourquoi il faut fixer cette valeur-là d'une manière optimale.
Mais est-ce que cela ne s'appuie pas aussi sur la réelle capacité du pays, disons quelque part la puissance d'un pays?
Oui, on l'a dit ici, on l'a dit à plusieurs reprises. Et le processus de création monétaire dépend d'une balance des paiements forte, c'est-à-dire de relations financières avec l'étranger qui soient importantes, qui soient très fortes. Mais pour avoir une certaine base en matière de relations financières avec l'étranger, il faut que la première ligne de la balance des paiements soit cohérente. C'est-à-dire qu'il faut que toutes vos opérations d'exportation soient largement supérieures à vos opérations d'importation. Il faudrait que vous ayez une balance d'opérations courantes largement excédentaire. Mais pour entrer dans ce processus-là, mais il faut avoir une économie, disons, forte dans l'ensemble. Donc la puissance économique joue un rôle important. Et le niveau de vie de la population joue un rôle important. Et la production nationale, le niveau de la production nationale, c'est-à-dire la variation de cette production, la consommation, l'investissement, le commerce extérieur, la variation de ces différents paramètres macroéconomiques joue également un rôle important. Et donc, une monnaie va de pair avec la puissance économique et financière d'un pays.
Mais est-ce qu'à dire qu'une monnaie forte équivaut à une économie forte?
Bien entendu.
Prenons un exemple. On sait que, par exemple, le livre sterling est pratiquement 800 francs, un peu plus même, disons, de francs CFA. Pendant qu'on voit, par exemple, la monnaie japonaise qui est à un niveau assez faible par rapport à d'autres monnaies, mais qui est, l'économie japonaise est assez forte.
Oui, une monnaie forte, c'est d'abord une monnaie qui est demandée par le reste du monde. Vous prenez, par exemple, le dollar ou alors l'euro, ce sont des principales monnaies pour lesquelles la plupart des transactions économiques et financières se font. C'est avec ces monnaies qu'on fait ce genre de transactions, parce qu'elles relèvent d'économies qui sont très fortes. Le dollar aujourd'hui est demandé par le monde entier, et l'euro qui est neuf par rapport au dollar est aussi entré dans ce jeu-là. Et l'économie européenne est aussi une économie qui est très forte. Donc il faut voir d'abord les échanges qui se font, il faut voir le degré des demandes de ces échanges-là commerciaux à travers le monde. Et ça, c'est un élément important. Maintenant, il y a aussi le cours des devises. Lorsque la demande, par exemple, est supérieure à l'offre en matière de taux de change, il va sans dire que cette monnaie gagne en notoriété et devient même très forte. C'est vrai, il y a des avantages. Il y a aussi des inconvénients dont on parlera tout à l'heure.
Justement, parlons du taux d'échange. Et quelle est la relation entre le taux d'échange et la compétitivité, par exemple, de cette monnaie ou de l'économie même qui sous-tend cette monnaie?
Les deux vont même de pair. Vous pouvez avoir un taux d'échange élevé. Vous pouvez avoir un taux d'échange qui ne soit pas élevé, mais qui soit bas. Déjà, un taux d'échange qui est élevé, qui est fort, ça veut dire que votre monnaie est beaucoup demandée à travers le monde. Et dès lors où elle est beaucoup demandée à travers le monde, c'est que c'est une monnaie qui est acceptée à travers le monde entier. Donc c'est déjà un avantage comparatif. Mais une telle monnaie, c'est tout à fait clair que les prix des principaux produits qui doivent être achetés dans cette monnaie-là deviendront un peu plus élevés. Quelquefois, elle peut manquer de compétitivité. Lorsque, dans le cadre du commerce international, vos produits ont un prix très élevé par rapport aux autres produits, et ces produits-là sont moins demandés. C'est-à-dire que votre production nationale va alors baisser à un moment donné. C'est pourquoi il faut avoir un niveau optimal. Dans le cadre de la gestion de vos transactions financières avec l'étranger, il faut avoir un niveau optimal en matière de gestion des taux de change. Maintenant, celui qui n'a pas un taux de change, par exemple, élevé, Cela peut se faire d'une manière volontaire. Lorsque vous constatez que vous n'êtes pas compétitif, qu'est-ce que vous faites ? Et soit vous faites une dévaluation, si votre monnaie vous appartient, bien sûr. Lorsqu'on est dans le cadre d'une union, ça c'est autre chose. Il faudrait passer par l'union avant de procéder à cette dévaluation.
On en a connu, hein, pour être plus concret, ici dans la zone UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, la dévaluation du franc CFA, c'est vrai, pour l'instant, ça a été la seule, mais il y a eu des rumeurs. Mais par exemple, pour venir à ce cas de dévaluation qu'on a connu, quelles ont été les raisons, vous en tant qu'économiste, qui ont amené les pays membres de cette union à prendre cette décision?
Voilà, il y a plusieurs causes. D'abord, l'une des principales causes, c'est lorsque votre monnaie baisse. Et qu'est-ce qui fait baisser une monnaie? Il y a la dépréciation elle-même.
Oui.
Il y a la perte même du pouvoir d'achat. Il y a l'inflation. Alors, quand vous êtes dans cette situation, c'est que vous rencontrez des difficultés en matière de gestion de votre politique économique et financière. Et lorsque votre monnaie semble être surévaluée par rapport à vos capacités réelles en matière de gestion de votre politique économique et financière, mais il faut procéder logiquement à une dévaluation de cette monnaie-là pour que vos produits puissent être compétitifs. Parce que si les produits ne sont pas compétitifs, vous n'allez pas avoir les fonds nécessaires pour gérer au mieux le solde monétaire de votre balance de paiement. Or, pour avoir un solde monétaire négatif qui correspond à un solde global positif, il faudrait que votre première ligne soit cohérente. C'est-à-dire qu'il faudrait que vos opérations d'exportation soient supérieures à vos opérations d'importation. Mais dès lors où on a l'inverse et que cela perdure, il faut alors prendre d'autres initiatives, faire en sorte que vos produits à l'exportation deviennent moins chers. Bien entendu, il y a des effets négatifs aussi. Les importations deviendront nettement plus chères que les exportations. Mais très souvent, on prend aussi des politiques d'accompagnement. Quelquefois, au niveau des ménages, on essaie de renchérir le salaire, par exemple, des ménages. Et on essaie de baisser aussi le coût de certains produits en termes d'impôts. Voilà, l'État fait ces aménagements-là pour permettre aux opérateurs économiques d'être compétitifs à l'étranger.
Quel est l'impact surtout du taux d'échange dans la relance d'une économie lorsque les décideurs sont face à ce choix de relancer l'économie?
Alors, il y a plusieurs manières de relancer une économie. Il y a la relance par la gestion d'une politique proactive de la demande globale. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur la consommation et l'investissement. Et ces aspects-là entraînent nécessairement une relance de l'économie nationale. Mais on peut aussi faire une relance par les taux de change. Et par les taux de change, c'est quand il y a une dépréciation monétaire, on procède alors à ce qu'on appelle une dévaluation. La dévaluation, c'est...
La dépréciation monétaire, elle est caractérisée par quoi ?
Et c'est la baisse du pouvoir d'achat. Donc là, on passe bien entendu par la politique de la dévaluation. Elle consiste tout simplement à mettre un accent sur les taux d'échange. C'est-à-dire vous changez nettement de taux d'échange de manière à ce que vos produits puissent être compétitifs, c'est-à-dire moins chers par rapport à l'étranger.
Est-ce qu'il existe un bon taux d'échange, selon vous, en tant qu'économiste? Si oui, c'est lequel?
Je ne sais pas où est-ce que vous voulez qu'on se situe. Est-ce les taux d'échange par arrimage à une autre monnaie? Ou alors est-ce des taux d'échange qui évoluent dans un contexte
libre, cas pratique, par exemple, la monnaie, le franc CFA, est arrimée à l'euro, ça on le sait. Est-ce que c'est une bonne politique d'être arrimée à une monnaie ou bien il faut laisser fluctuer sa monnaie, de votre avis?
Oh oui, ça dépend. Et je pense que lorsque vous êtes, par exemple, dans une économie où vous avez des difficultés macroéconomiques, et lorsque vous êtes arrimé à une monnaie étrangère, et vous savez que vos différentes opérations financières avec l'étranger seront des opérations qui ne connaîtront pas véritablement une fluctuation. À moins que la monnaie à laquelle vous êtes arrimé elle-même par rapport aux autres monnaies connaît des fluctuations assez importantes. Et tout ce temps égal par ailleurs, s'il n'y a pas ce genre d'activité, il va sans dire que votre monnaie sera une monnaie qui va évoluer dans un environnement fixe que vous pouvez contrôler. Aujourd'hui, vous savez que si vous investissez 100 millions de francs CFA pour acheter telle ou telle marchandise, elle va vous revenir. Alors que de l'autre côté, où il y a eu des fluctuations à ne plus en finir, aujourd'hui, on sait ce que coûteront nos transactions financières avec l'étranger, mais demain même, à la première heure, on ne sait plus ce que coûteront ces transactions financières. Alors, il est difficile de mettre sur pied une politique économique et financière cohérente dans le cadre d'une monnaie qui bouge chaque jour que Dieu fait et par rapport à une monnaie dont les cours sont fixes.
C'est compris. Merci en tout cas pour cet éclairage, Monsieur Onozon. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence économique. Vous nous expliquez ces taux de change. Lorsque vous avez une monnaie précise, vous allez dans un autre pays, vous êtes obligé de convertir cette monnaie-là pour pouvoir avoir la monnaie étrangère. C'est ça le taux d'échange. Et on expliquait cela avec notre invité, Monsieur Onozon. Merci.
Merci.
On se retrouve là la semaine prochaine, amis auditeurs, pour aborder encore ce même sujet avec d'autres explications. Merci.
Tendance de la bourse.
Les tendances de la bourse, troisième rubrique de cette émission. Monsieur Kouaou, toujours rendez-vous pour vous à mes auditeurs. Alors justement, Monsieur Kouaou, lorsque on est intéressé par les actions d'une entreprise, on a acheté par le biais donc des SGI, est-ce qu'on se dit, bon, je croise les doigts et puis j'attends la fin de l'année, ou bien il y a un comportement en tant qu'épargnant à avoir?
Concernant la question de la gestion du portefeuille, il y a deux styles de gestion, la gestion libre et la gestion sous mandat. La gestion sous mandat, c'est le fait d'ouvrir un portefeuille et d'en confier la gestion à la structure. Ce que ça signifie, c'est que c'est le gestionnaire de portefeuille de la SGI qui va choisir les actions et mettre les ordres, acheter les titres. Donc, il va composer le portefeuille. Dans la gestion libre, la SGI ouvre votre portefeuille et c'est vous-même qui choisissez les actions, qui initiez les ordres de bourse et qui composez votre portefeuille. Donc, des fois, quand des gens sont novices, ils préfèrent laisser à la SGI le soin de faire la gestion du portefeuille. Ici, c'est pas le lieu de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est de dire quelle est la latitude éventuellement dans chaque cas. Si je suis en gestion sous mandat, je suis en français simple en délégation. Tu délègues quelque chose à quelqu'un. Il faut déjà savoir qu'on ne délègue pas quelque chose qu'on ne sait pas faire.
Justement, c'est parce que je ne sais pas faire que je délègue.
C'est une très mauvaise compréhension de la délégation. Je sais que beaucoup de gens disent ça. C'est une très mauvaise compréhension de la délégation. On délègue quelque chose qu'on sait faire et qu'on n'a pas le temps de faire. On ne délègue pas quelque chose qu'on ne sait pas faire. Si vous ne savez pas faire de la sauce graine, je prends cet exemple, quelqu'un peut vous dire que la sauce graine est prête en 30 minutes. De toute façon, vous ne savez pas ça cuit en combien de temps. Mais toute personne qui sait faire la sauce graine, il sait que ça ne cuit même pas en une heure. Donc, on ne délègue pas quelque chose qu'on ne sait pas faire. On délègue quelque chose qu'on sait faire, mais qu'on n'a pas le temps de faire. Donc, quand la personne fait son rendu, tu compares son rendu aux critères, aux règles liées à l'activité. Je vous donne ce cas-là. Quand j'étais au Burkina, il y a une auditrice qui me partageait l'expérience désagréable d'un de ses frères. Donc, elle avait investi en 2018 et ça s'était vraiment très mal passé. Donc, elle hésitait à faire la formation. Elle dit, en fait, il dit qu'il a mis 1 million et son portefeuille était valorisé 130 000. Donc, de 1 million en janvier, 130 000 en octobre. Je lui ai demandé à cette dame-là, votre frère a acheté quelle action? Elle dit, il ne sait pas. J'ai dit, mais comment il investit en bourse et puis il ne sait pas ce qu'il achète? Elle dit, non, c'est pas lui qui achète, hein, c'est sa SGI. J'ai dit, ah voilà. C'était ça l'erreur absolue. C'est pas d'avoir confié à la SGI l'erreur, c'est de n'avoir pas regardé et de n'avoir pas pris le soin de comprendre qu'en 2018, on était dans un marché baissier, c'est vrai. Mais le marché a fini à moins 28 au 31 décembre. Ce monsieur était à moins 87. Ça veut dire qu'il y a un problème de pertinence des titres qu'ils ont choisis pour lui. Mais si tu ne sais même pas lire la performance du marché, comment tu verras ça?
Savoir lire la performance du marché. Comment justement savoir que le marché baisse ou bien si c'est assez intéressant?
Déjà, il faut dire, le marché a une performance moyenne indiquée à travers l'évolution des indices. À la BFM, l'indice de référence, c'est le BFM composite. Donc, quand je parlais du moins 28, moins 29 de tout à l'heure, je faisais référence au BFM composite. Donc, en prenant le bulletin officiel de la cote produit par la BFM, vous avez l'évolution des indices. Donc, faire une formation vous permet de savoir lire le bulletin et savoir où on regarde pour avoir quelle information. Donc, quand je prenais le bulletin, par exemple, en fin mars, vous voyez que le marché, je prends un exemple, est à moins 5. Vous tirez votre relevé en gestion sous mandat, vous êtes à moins 15. Vous êtes en droit de revenir vers eux pour dire, ah, je suis à moins 15, mais je suis à moins 15 dans un contexte de moins 5 au niveau du marché. Vous avez une discussion comme ça en mars avec eux. Vous revenez encore en juin, vous avez une autre discussion. Vous êtes sûr qu'en fin d'année, ils ne vont pas revoir deux ou trois trucs. Ils vont revoir.
Je veux dire qu'il y a le taux du marché et puis il y a aussi votre performance en ce qui concerne les titres que vous avez.
Oui, en fait, quand on dit moins 29, c'est, comme je dis, une performance moyenne de l'ensemble des titres. Il y a 45 entreprises côté, on en a parlé un peu. Donc, quand une entreprise commence 2018 à 10 000 francs et qu'elle finit l'année 2018 à 5 000, elle a fait du moins 50. Elle a baissé de 50%. Donc, quelqu'un peut faire du moins 50 s'il n'a acheté que cette entreprise-là. Alors qu'en moyenne, le marché a fait du moins 29. Ça veut dire quoi? En achetant que cette entreprise, il a en griffe perdu 50% de son argent. Alors que s'il s'était rendu compte que l'action baissait un peu trop, il aurait pu quitter la position et puis acheter une autre entreprise qui aurait fait peut-être du moins 2, du moins 3. Donc, l'arbitrage se fait en disant le marché en moyenne fait du moins 29. Donc, dans ce marché-là, on va trouver du moins 30, du moins 60, comme on va trouver du moins 5, du moins 10. Donc, pourquoi est-ce que je suis sur ces valeurs-là qui font du moins 60, alors que je peux me rentrer sur ces valeurs qui font du moins 5 ou du moins 10, ou même peut-être même qui sont à l'équilibre?
Je résume ce que vous dites. Même si vous avez délégué, il faut, en tant qu'investisseur, avoir un coup d'œil de ce qui se passe sur le marché.
Retenez simplement qu'il n'y a personne qui devient riche par délégation. À un moment, il faut prendre soin de votre argent. Et prendre soin de votre argent, ce n'est pas forcément le faire, mais c'est peut-être le comprendre. Donc, faire des formations, comprendre les règles qui gouvernent les activités avant de déléguer.
Il y a un autre aspect à développer, hein, justement. Ça, c'était pour la délégation. Et voilà, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. On est obligé de nous arrêter, mais c'est un sujet très, très intéressant et important aussi à mes auditeurs. Allez, on va se retrouver avec beaucoup, beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, vous avez l'occasion aussi, hein, de mieux comprendre cette approche-là en prenant part donc aux formations de l'école de la bourse. Hein. On va rappeler les lieux et les fréquences.
Chaque mois, généralement chaque premier samedi du mois, à la Riviera Palmeret, les inscriptions, vous pouvez les faire via Facebook, la page et le groupe, c'est l'école de la bourse. Vous pouvez les faire aussi par mail, l'école-de-la-bourse@yahoo.com. Vous pouvez apprendre l'activité, pratiquer l'activité. Des gens comme vous nous ont connus en 2019 et aujourd'hui sont investisseurs à la BFM. Pourquoi pas vous?
Pourquoi pas vous? L'école de la bourse est là pour vous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.